j'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pour répliquer,
ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
On fascise la bandeine, on est libre pour la bandeine.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canu. Nous sommes le jeudi 21 mai 2020 et nous voilà encore une deuxième fois en direct. Je suis accompagnée de Laurent.
Bonsoir Delphine.
On espère que vous allez tous et toutes bien. Ce soir, on va vous raconter plein de trucs. C'est tout très déconstruit, vous allez voir. Vous allez écouter, enfin nous l'espérons. Nous commencerons avec Laurent qui nous parlera d'Israël et de Palestine. On parlera d'annexion, de Salah Hamouri et puis de série Your Boys. Je vous parlerai des 40 ans du massacre de Gwangju, ce qui nous permettra de partir en Corée du Sud, de parler de répression, d'histoire, de culture. Nous parlerons du franc CFA avec Laurent, hein, un petit peu une belle histoire là aussi. Si on a le temps, mais vraiment si j'ai pas pris trop de temps sur mon histoire de massacre de Gwangju, nous parlerons un peu de capitaliste. Et puis tu as aussi un sujet sur le capitalisme contre la santé avec les tribunaux d'arbitrage.
Voilà, et on va commencer donc ce Canu Info en parlant un peu d'Israël-Palestine. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Et on va commencer par un petit peu d'histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé en novembre 1980. Bon, vous me direz, c'était il y a quand même 40 ans. C'est l'époque où Menahem Begin est Premier ministre. Lors d'une interview à la NBC sur la façon dont il pensait que la communauté internationale réagirait face à une annexion possible, probable, du plateau du Golan par Israël. À l'époque, il y avait un projet de loi qui étendait le droit israélien à la zone occupée légalement par l'armée israélienne. Ce projet était présenté à la Knesset, le Parlement israélien. Mais le gouvernement de Begin n'avait pas encore annoncé son soutien à cette initiative, ce qu'il va faire après, bien évidemment. Un an plus tard, donc effectivement, il fait passer Menahem Begin la loi sur le plateau du Golan. Le territoire syrien est officiellement, du point de vue d'Israël, annexé. Donc en 1967, donc ça s'est passé en 62, enfin il est occupé depuis 67, il est annexé donc en 81. On attendait la réaction de la communauté internationale, elle fut faible, pas surprenante, hein. Le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne l'annexion de facto illégale d'Israël de cette partie du territoire syrien. Il déclare que c'est une menace permanente pour la paix et la sécurité internationale. Il y a une résolution, la 497, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui dit que voilà, cette loi israélienne est nulle et non avenue et sans effet, je cite. Ça a été adopté à l'unanimité, même l'administration Reagan, président des États-Unis d'Amérique à l'époque, a voté en faveur de cette résolution. Et au final, rien. Ça n'a servi à rien. Aujourd'hui, alors le lien avec aujourd'hui, ben c'est que le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui va donc rester au pouvoir grâce à cette belle nouvelle coalition, prévoit, il l'a annoncé il y a un petit moment et c'est revenu aujourd'hui, d'annexer donc toutes les implantations de la vallée du Jourdain et d'une grande partie de la Cisjordanie. Tout ça, bien sûr, de point de vue, c'est illégal du point de vue du droit international. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, comment réagirait aujourd'hui la communauté internationale, ou comment réagira quand ça va arriver, parce qu'on sent bien que ça va arriver. Alors, il y aurait certainement beaucoup d'opprobes hein, que l'on peut qualifier de théoriques ou de virtuelles. Ainsi, on imagine les réunions plus ou moins d'urgence du Conseil de sécurité, de la Ligue arabe, avec des résolutions derrière. Mais finalement, personne ne sait avec certitude si l'annexion de ce parti de territoire par Netanyahou, dont les conséquences réelles sur le terrain sont difficiles à prévoir, aurait des vraies répercussions négatives pour Israël. Si on se tient à l'analogie du plateau du Golan, effectivement, Israël risque pas grand-chose. Alors, du point de vue de l'Union européenne, que peut-il se passer? L'Union européenne pourrait prendre des sanctions, comme elle l'a fait avec la Russie pour son annexion de la Crimée en 2014. Ouais, alors là, c'est un peu rêvé, parce que ça n'arrivera sûrement pas. Bruxelles pourrait geler les accords bilatéraux, suspendre la coopération scientifique, annuler les tarifs préférentiels qu'elle accorde aux produits israéliens, interdire aussi les marchandises de Cisjordanie, tout ça. Certains membres pourraient rappeler leurs ambassadeurs, reconnaître un État palestinien. Ouais, bon, bref, cela reste très improbable, car Israël, en fait, viole déjà en permanence les traités passés avec l'Union européenne, notamment à chaque fois qu'ils assassinent des gens, et il n'y a jamais eu aucune sanction, en fait. Donc, il risque de rien se passer. Quant à la réaction des Palestiniens sur le terrain, qu'elle soit violente ou non, c'est un facteur important hein, pour Netanyahou. Il faut qu'il réfléchisse à ça. Quel risque y a-t-il ? Enfin bon, après des décennies d'occupation, de répression, de violence, de massacres, de privation de liberté, d'assassinat et de tout ce qu'on connaît, on ne sait pas s'il reste beaucoup d'énergie aux Palestiniens pour s'opposer de manière efficace, forcément violente, hein, à une occupation qui serait légalisée de ce bout de territoire. Ceci dit, de nombreux pays ont récemment, parce que ça traîne depuis un petit moment, souligné que les annexions unilatérales représentent une violation du droit international. Donc on pourrait imaginer que les réponses seraient plutôt juridiques et du point de vue du droit international. On s'attendait déjà à ça, hein, avec la flottille qui avait été attaquée par Israël, enfin toutes ces choses-là, c'est jamais arrivé non plus. Donc bref, en plus, on rappelle que Israël est toujours soutenu par les États-Unis d'Amérique. Hein, ils ont même, à travers leur président, réitéré leur soutien à cette future annexion qui est annoncée. Tant que ça reste dans ce que Donald Trump a appelé le deal du siècle, c'est son pseudo-plan pour la paix, là, pour le Proche-Orient ou le Moyen-Orient, où les Palestiniens perdent tout et les Israéliens gagnent tout. Donc bref, on aura sûrement un veto de la part de l'administration américaine s'il y a un vote à l'ONU, mais de toute façon, comme ces votes ne servent à rien, ça ne changera pas grand-chose. Il y aura aussi sûrement une résolution non contraignante qui sera adoptée à une majorité, pas besoin de droit de veto là, mais ça ne changera rien non plus. Pourtant, officiellement aujourd'hui, à part les États-Unis, aucun pays n'a apporté de soutien à la politique de Netanyahou sur l'annexion. Il a des soutiens qu'en interne, et notamment au sein de la coalition, ce qui est inquiétant. Même les pays proches poussent Netanyahou à ne pas le faire. On a vu l'Allemagne déclarer que ce serait vraiment pas une bonne idée, la France aussi. Alors on n'est pas forcément le pays le plus proche d'Israël, mais voilà, il y a quand même des relations. La Russie, la Chine, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, j'en passe des meilleurs, ont aussi fait des déclarations similaires. Mais on sait ce que ça vaut, ces déclarations, c'est de la théorie, c'est du virtuel. Du côté palestinien, pour l'instant, les dirigeants ont salué un engagement de respecter le droit international. Bon, c'est pas bien, oui, ils disent ça tout le temps et ça changera pas grand-chose, mais il n'y a pas non plus de menaces d'intifada ou de choses comme ça. Donc on est dans une situation un peu entre deux et cette loi qui va sûrement être une loi au Parlement israélien, la Knesset, qui va valider cette occupation. Donc l'espoir est quand même très très mince qu'il y ait quelque chose contre. Et c'est ce qui est annoncé, et l'annonce donc de cette coalition avec le centre droit et la droite et l'extrême droite, c'est la porte ouverte à cette politique d'annexion illégale. Donc c'est vraiment très très mal parti. Alors je voulais revenir aussi sur une toute petite info sur Salah Hamouri. On en a parlé plusieurs fois de Salah Hamouri, c'est un franco-palestinien. Hier, mercredi, il est avocat, il travaille pour une asso là, qui s'appelle Adamir, de défense des droits de l'homme et de droits des prisonniers palestiniens. Il est dans le collimateur de l'État d'Israël, il a été arrêté plusieurs fois. Le gouvernement français a toujours refusé de l'aider, hein, parce que, bon, il faut pas fâcher Israël. Hier, il s'est fait attaquer trois hommes qu'ils ont qualifié de physiquement entraînés, avec des accents qui parlaient hébreu, quoi. Ont tenté de le kidnapper, il est arrivé à s'enfuir dans les petites ruelles de Ramallah, au milieu des gens, hein, c'était un moment où il y avait beaucoup de gens dans les rues. Donc c'est pas la première fois qu'il est en danger, je l'ai déjà dit, il est soutenu par les assos internationales de défense des droits de l'homme et de défense de la Palestine, mais c'est à peu près tout, et il a encore failli se faire enlever. On rappelle qu'il y a le statut de la détention administrative, qui est un truc issu de l'occupation, de la gestion britannique de ce territoire, qui permet donc aujourd'hui à Israël, puisqu'ils ont gardé ça dans le droit, d'arrêter quelqu'un, de le mettre en prison un temps indéfini, ou infini plutôt dirons-nous, sans lui dire aucune pour quelle raison, en fait, voilà. Donc c'était la mauvaise nouvelle du jour, enfin la bonne nouvelle, puisqu'il arrivait à pas se faire arrêter. Et puis je voulais juste terminer sur Israël-Palestine et parler de la série Your Boys, une série qui est sortie il y a déjà longtemps là, sur des plateformes capitalistes, mais qu'on trouve aussi de manière autre. C'est une série qui est basée sur une histoire vraie, hein, c'est celle de Mohamed Abou Dair, qui va être assassiné par des juifs ultra-orthodoxes. Et cette série, qui est une série israélienne, raconte un peu cette histoire-là, avec le point de départ, c'est le kidnapping d'abord de trois adolescents juifs, qui sont ensuite retrouvés morts, a priori assassinés par des militants du Hamas. Ça fait un tollé en Israël, et par vengeance, des juifs tendance ultra-orthodoxe décident d'enlever un Palestinien et de l'assassiner, et on a l'histoire de ce procès dans cette série qui est très courte, hein, qui dure 10 épisodes, qui raconte l'enquête du policier jusqu'au procès, au jugement de ces religieux ultra-orthodoxes et du gamin qui est au milieu, là, qui est un peu perdu, mais qui est aussi bien croyant, avec pas mal de choses derrière cette série, très intelligente, hein, puisque il n'y a pas les bons, les mauvais, et c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'on aborde bien sûr la question de la colonisation, on est dans la partie de Jérusalem-Est, avec le beau tramway construit et vendu par Alstom, dans cette partie occupée illégalement, hein, par Israël. Donc on a la vie dans cette région-là, les tensions, puisque ça part tout de suite forcément en bataille de rue. On a des questions importantes sur la religion, hein, qui apparaissent, sur l'occupation, et bien évidemment, et de manière détournée aussi sur l'homosexualité, avec un petit passage comme ça. Voilà, c'est une série vraiment très très bien sur la situation israélo-palestinienne, sur ce qui peut se passer, et c'est comme c'est quelque chose de réel, avec des vraies condamnations, ça montre aussi que même au sein d'Israël, ils sont débordés par l'extrême droite religieuse. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est le côté extrême droite religieuse.
Oui, vous pouvez aussi regarder Un orthodoxe.
Une série en 4 épisodes.
Une série avec Shira Haas. Shira Haas qui joue le rôle d'une toute jeune Esti qui a 19 ans, qui vit dans, à Williamsburg, un quartier juif de...
Ultra-orthodoxe aussi.
Ultra-orthodoxe, donc c'est à Brooklyn, à New York. Elle va Esti vouloir partir, quitter ce mariage arrangé qu'elle a pourtant accepté avec Yansky Shapiro, et puis traverser l'Atlantique pour venir en Allemagne. C'est basé sur une autobiographie, hein, celle de... Enfin, c'est une histoire autobiographique. Le titre, c'est The Scandalous Rejection of My Acidic Roots. C'est Deborah Feldman qui a écrit l'ouvrage dont est tiré, avec une certaine autre amplitude, hein, cette série Unorthodox. Cette actrice est absolument formidable, elle joue merveilleusement bien jeune femme qui à la fois accepte des obligations familiales et religieuses et en même temps cherche à s'en libérer. Tout ça est fait avec beaucoup de douleur, c'est quand on est une femme, je pense, encore plus poignant, voilà, cette capacité à toutes chercher à se libérer, quelle que soit notre situation. Mais là, en plus, voilà, je sais très très bien expliquer aussi sur ce que sont ces groupes fondamentalistes, intégristes, religieux, et c'est fait en même temps avec une certaine douceur, il n'y a pas de haine. Donc c'est une très très belle série qui parle, c'est ça qu'il faut y voir, de l'émancipation d'une femme.
Ouais.
Face à la religion.
Et face au machisme, puisque c'est ça qui est au sein des religions
bien
en général,
sûr.
Et c'est là en plus particulièrement dans cette communauté-là. Du coup, on va parler de Corée du Sud maintenant.
Oui, alors on a déjà parlé de répression en Corée du Sud. On vous avait parlé de ce film 1987, je vous le dis en français, When the Day Comes, pour le sous-titre en anglais. On en avait parlé, c'est un film de Im Sang-soo, pour vous parler des événements et de la répression en 1987. Là, je vais vous parler de ce qui s'est passé en 1980. Tu citais cette année-là tout à l'heure. Il y a 40 ans, a eu lieu le mouvement pour la démocratisation de Gwangju qui a été géré dans le sang.
Ah oui, c'est apocalyptique, tu veux dire.
Voilà, donc c'est un soulèvement. Alors Gwangju, c'est dans le sud-est de la Corée du Sud. Quand vous continuez après, il y a la côte et après, il y a Yeouido, hein, donc cette île tout au sud. Il y a 40 ans, donc aujourd'hui... On est dans la semaine de commémoration, puisque ce sont des événements qui sont datés du 18 mai 1980 au 27 mai 1980. Mais il y a eu évidemment des événements avant qui ont amené ce soulèvement. Alors c'est assez intéressant, hein, ce qui est en train de se passer en Corée du Sud, parce que M. Moon, que vous savez qui est centre-gauche, qui lui-même a fait partie des étudiants qui ont œuvré à la libération du pays. Je vous rappelle, la Corée du Sud, c'est un pays avec... multiples dictatures. On a Monsieur Park, assassiné en 1979.
Qui est donc le dernier dictateur...
Avant les prochains.
Avant ceux d'après, mais oui, bah, celui dont on parle là, juste
voilà.
Avant qu'il y ait le
exactement. Donc il est assassiné par un proche des services de renseignement de la Corée du Sud, qui s'appelle le NIS aujourd'hui. Le NIS, vous savez, c'est aussi cette structure qu'on a retrouvée dans les affaires de scandale avec Madame Park. Présidente déchue, fille
du dictateur.
Monsieur Park. C'est important de souligner que voilà, les Park et les Kim sont très nombreux en Corée du Sud. Ça ne veut pas dire que tous et toutes sont liés à cette dictature. Mais en tout cas, la fille, on voit quand même que ceux qui sont bien nés avaient atteint cette présidence avant d'en être déchus. D'ailleurs, je crois qu'il y a en Corée du Sud, il y a un appel qui a été fait puisqu'ils avaient trouvé que la peine de 32 ans n'était pas suffisante. Donc là, ils requièrent maintenant 35 ans et puis pas mal de sous à récupérer. Voilà, il y a encore, ça fait partie de cette histoire, hein, toute cette dictature.
Bon, la fille avait été élue démocratiquement et elle a été voleuse.
Elle a été voleuse. Mais aujourd'hui, on retrouve encore, hein, cette histoire des dictatures où les procureurs vont aller chercher où sont planqués les sous, parce que c'est aussi une affaire de gros sous. Donc, en 79, on a M. Park qui est assassiné, suit un espèce de placement de personnes pantins sur le fauteuil de chef, et puis on a un coup d'État qui se met en place juste avant en décembre. C'est Monsieur Chun, un général, qui va prendre la tête et qui va répondre par la violence et par l'assassinat aux mouvements populaires qui se mettent en place dès le début des années 80. Alors, ça part évidemment aussi de la capitale, de Séoul, et puis ça se répand. Il y a Gwangju. Gwangju, c'est un territoire de contestation, c'est un territoire de lutte et de résistance. Quand il y a eu la colonie japonaise, les gens dans cette ville se sont mobilisés contre les dictatures, et donc c'est une ville où il y a une volonté de résister. Et il y a le 17 mai des premiers mises en place de nouvelles règles qui sont répressives dans toute la Corée, et dès le 18 mai au matin, il y a des étudiants qui vont se rassembler devant leur université, puisqu'il y a la fermeture des universités qui se met en place. Là, d'un seul coup, c'est une chape de plomb hein, qui s'abat le 17 mai, la veille de ce début de mouvement à Gwangju. Il y a du contrôle de circulation, le contrôle de la presse, la censure, les mouvements étudiants qui pouvaient tenter de se monter sont écrasés. Et à Gwangju, il y a une mobilisation, puisque parallèlement à tout ça, Sean et sa clique vont envoyer l'armée partout en Corée du Sud, et en particulier dans des villes comme Gwangju, où on sait qu'il y a une contestation, et qui vont s'installer sur place. Donc Monsieur Moon, je vous le disais, lui a été un ancien, Monsieur Moon, hein, le président actuel, a été un ancien étudiant contestataire, il a été emprisonné, et donc il se dit convaincu qu'il faut continuer à lutter contre l'obscurantisme sur cette période, en 1980. Alors, officiellement, il y aurait 170 morts, déjà même officiellement, le chiffre est pas clair.
De toute façon, il y a presque 1000 disparus, donc c'est 1000 morts. Hein.
Alors, on parle de plus de 2000 morts quand même, 1000 disparus. Les chiffres sont contestés par la droite et les conservateurs, par les petits fachos. Et c'est très compliqué. Hein. On avait raconté il n'y a pas très longtemps qu'il y a des tombes qui ont été découvertes à Gwangju. Donc là, ça fait partie aussi de cette enquête que le président sud-coréen veut amplifier sur ces événements de Gwangju, et pas que, pour savoir comment les gens ont été assassinés, que sont devenus les corps. Alors on soupçonne qu'il y a eu des abandons de corps dans la mer, hein, c'est pas très très loin au sud. On ne sait pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui encore cherchent leurs enfants, leurs maris, leurs sœurs, leurs mères. Parce que ça a ratissé très large. Alors d'abord, ça a été effectivement un mouvement étudiant. Ça s'est amplifié dès le 18. Donc les étudiants sortent, font pression, se rendent dans la rue. C'est d'abord pacifique. Et puis dès le 19, le 20 et le 21, il y a les habitants qui vont descendre aussi. Et qui vont tenter de résister à cette armée qui les empêche vraiment de vivre. Et ça va être partir à l'affrontement. Dès les jours qui vont suivre, il va y avoir des prises d'armement, hein, d'armurerie par ces résistants. Alors dans certains résumés, vous pouvez lire que ces groupes que moi je vais appeler des résistants armés sont traités de milices. C'est-à-dire que je trouve que ça affadit le propos. Le but, c'était pas de défendre leurs biens et les maisons, c'était de défendre leur liberté et la démocratie. En tout cas, de faire en sorte qu'elle apparaisse.
Et créer en fait une armée populaire, du coup.
Et ils ont créé une armée populaire, mais ils ont aussi créé à Gwangju, parce qu'à un moment, l'armée va se retirer. Donc c'est une sensation de victoire. Et là, pendant quelques jours, le peuple va prendre possession vraiment de son environnement et de la ville. On va parler un peu plus tard de ce film du 18 mai, mais les choses sont réelles dans ce film, c'est-à-dire que les gens vont vraiment faire la circulation, vont se mettre à nettoyer les rues, vont mettre en place des systèmes de solidarité, comment se nourrir, comment accéder à l'eau, et tout ça va se mettre en place.
Oui,
ça
ils
va
ont
pas
quasiment
durer.
Lancer une autogestion de leur ville pour remplacer les autorités qui sont parties.
Ben oui, parce qu'il y a ces couvre-feux, il y a toute cette histoire qui se met en place quand même. On ne sait pas bien qui a donné les ordres à chaque fois sur place. Évidemment, ils étaient soutenus.
Pour tirer,
ouais. Pour tirer, on ne sait pas bien. Le 27, en tout cas, il y a en fait des parachutistes sur place qui sont envoyés. Il y en a près de 3000 pendant ce mouvement qui sont envoyés. On a des chars, des tanks, enfin c'est l'armée.
Hein, oui, en fait, les assassinats, il faut bien voir, c'est l'armée qui tue les gens qui se rebellent.
Puisque dès le 20 mai, en fait, c'est ça aussi qui va aggraver la situation. L'armée va tirer massivement.
À balles réelles.
Elle avait déjà assassiné hein, en Corée sur ce mouvement du 1980 des étudiants, des travailleurs, des manifestants et des manifestantes dans la rue. Mais là, il y a une exécution. Il y a dans le film du 18 mai une scène où il y a un bus qui est fusillé par l'armée sur une route. Un bus qui essaye de s'enfuir. C'est la réalité hein, aussi. Il y a des gens qui se sont fait choper sur la route en train de s'enfuir, de partir, qui se sont fait fusiller. Exécutés sur place. Donc c'est à la fois des assassinats dans les manifestations, mais des gens qui ont été assassinés alors qu'ils étaient à terre avec une balle dans la tête directement. Donc c'est une violence inouïe. Et quand le 27 mai là, c'est une catastrophe quand même, parce qu'il y a quand même des manifestants, ces résistants qui pensent qu'ils vont pouvoir gagner. Il faut savoir qu'il y a des comités qui sont créés, des comités étudiants qui vont permettre, évidemment, de tenir les bâtiments qui sont occupés. Il y a par exemple la station de radio qui est occupée avec l'antenne, donc il y a un moyen de diffusion. Il y a l'hôtel de ville qui est occupé. Mais il y a aussi l'idée de créer des groupes de soutien. Donc il y a des comités étudiants qui vont participer à, aux soins sur les manifestants et ceux et celles qui auraient été touchés dans la rue. Il faut savoir que les ambulances qui ont voulu aller sur les sites se sont fait fusiller aussi.
Oui, ça massacre à tour de bras. Quoi.
Donc il n'y a pas de pitié, hein, on n'en est pas là.
C'est des militaires. Hein,
c'est des militaires, ils ont ordre d'assassiner. L'idée qui est donnée à ce moment-là par le gouvernement en place, par ce général Sean, ce sont des amis de la Corée du Nord, ce sont des communistes, ils vont mettre à bas notre société, il faut les abattre. Ça, aujourd'hui encore, cette idée, elle divise hein, la société ouais. entre les conservateurs et on va dire les démocrates de l'autre côté. Ouais,
parce qu'en fait, dès qu'on est démocrate, à ce moment-là, et encore un peu aujourd'hui, mais moins quand même, dès qu'on est démocrate, on est rouge, c'est-à-dire communiste, et donc on est pour la Corée du Nord.
Donc cette situation du 27 mai, elle va se finir dans le sang. Très très rapidement, l'armée sud-coréenne va rentrer dans la ville et va assassiner les gens qui n'étaient pas encore morts. Ouais.
Tu parles de films, il y a eu plusieurs films hein, qui ont pris ces événements comme fond ou comme prétexte. Là tu parles du film qui s'appelle le 18 mai tout simplement, donc le date de départ des manifestations étudiantes. Un film qui date d'il y a une dizaine d'années, non ?
Oui, qui date de 2007, si je ne me trompe pas. Alors, il y a plusieurs films hein, qui sont sortis. Il y a Taxi Driver, par exemple, dont on aurait récent, pu aussi ouais. Parler, qui est un tout petit peu plus récent, effectivement. On a aussi un certain nombre d'ouvrages hein, de littérature qui reprennent aussi en partie ce mouvement de 1980. On a 26 mai, qui reprend la journée du 26 mai comme souvenir et qui va partir du principe que ce monsieur Sean, dont je pourrais vous parler, été condamné à la peine de mort en 1996. Il sera gracié plus tard. Il faut savoir que M. Sean a voulu assassiner l'un des leaders qui venait de Gwangju, celui qui sera président de la Corée du Sud et celui Kim Dae-jung, et qui sera aussi prix Nobel hein, de la paix, qui sera plus tard président de la Corée du Sud. Donc il y a ce film du 18 mai. Alors on dit souvent May 18 pour parler de ce film, mais aussi parce qu'en coréen, que je ne sais pas vous dire, c'est comme ça que s'appelle le film, parce que c'est comme ça dont on parle de ces événements sur toute cette période. Alors c'est un film de Kim Ji-hoon qui va s'attaquer à cette semaine, c'est 10 jours pratiquement, hein, c'est 11 jours de massacre. Alors ce que ça sait faire le cinéma sud-coréen, pour moi c'est deux choses, c'est des mélos. Et le cinéma sud-coréen sait filmer des manifestations et des répressions. C'est,
ouais, c'est très très bien fait ça.
À chaque fois très bien fait, quel que soit je trouve le réalisateur. C'est donc un film qui est avec du mélo dedans, qui va décider de suivre plusieurs personnages avec toujours cette idée. On rejoint un peu hein, 1987 ce film, d'une petite amourette au milieu. L'idée évidemment c'est de nous faire sympathiser avec ces militants, ces résistants, et puis nous parler aussi l'air de rien d'une petite vie, frères qui vivent ensemble, un étudiant, l'autre qui fait taxi, une jeune femme infirmière, un père ex-militaire. On pose un petit peu les décors. Il y a un certain nombre de stars hein, qu'on retrouve dans ce film. Par exemple, pour Kim Sang-yoon qui joue le personnage de ce taximan. Voilà, donc on retrouve. C'est un film quand même qui a été grand public hein, et qui a eu un vrai succès parce qu'il faut parler de son histoire en Corée du Sud et cette histoire de répression.
Ouais, alors j'en parle beaucoup. Il y a beaucoup de films hein, historiques. Ouais. Contrairement à certains pays dont je ne citerai pas, qui commencent par F et qui terminent par E, où il y a des événements qu'on décide de ne pas faire quasiment de films. Là, la Corée, sur ces périodes troubles, dirons-nous, avec la dictature, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de films.
Hein. Oui, il y en a beaucoup. Alors là, effectivement, on est dans un film particulier. Moi, je trouve que pour ce réalisateur, il y a quelque chose qu'il maîtrise très, très bien, c'est le silence et la musique. Alors, ça ne veut pas dire que la musique, je l'apprécie parce qu'on va être sur un petit fond de violon, mais il sait très bien générer, en tout cas, son son. Il y a une très, très c'est très habile pour amener de l'émotion. Okay. Et parfois où il y a trop d'émotions, il arrive à mettre un silence qui nous rappelle juste que en fait ce qu'on est en train de regarder c'est horrible et que malgré l'émotion qu'il y met, le côté que nous on pourrait trouver larmoyant, c'est absolument terrible. Hein, cet enfant qui voit son père mourir est amené avec une musique larmoyante et en même temps le silence qui en suit derrière juste avec les pleurs.
Oui, puis alors,
nous rappelle des scènes quand même assez horribles.
Voilà, du coup, ça nous rappelle aussi la différence qu'il y a entre un régime de plus en plus autoritaire, comme pas mal de régimes dans le monde, et notamment la France, et une dictature. Il y a une vraie différence hein, entre régime autoritaire et dictature. Là, on est dans une dictature, donc on sort l'armée et on tire sur les manifestants. C'est un truc assez incroyable. Et les scènes de lutte, d'assassinat, de bataille, tout ça, elles sont vraiment impressionnantes de violence. Hein. Ils se font tabasser, mais des trucs de dingue.
On l'avait déjà dit hein, sur 1987, c'est-à-dire cette capacité à passer un peu du sourire, parce que le début est finalement assez drôle.
Assez mielleux, ouais.
Mais même parfois un peu drôle, moi je trouve. Il y a ce côté aussi, effectivement, mélo très sud-coréen, qui parfois est un petit peu gênant, un petit peu trop plein hein, quand même, mais qui est très bien construit dans ce film. Et puis ça a surtout le mérite de nous raccourcir ce qui s'est passé sur ces journées, et en étant assez proche de ce qui s'est passé. Je vous disais, c'est une histoire de bus, elle est arrivé. Là, c'était dans la réalité, ce sont des jeunes lycéennes qui se sont fait fusiller dans ce bus en 1980. Le fait que des gens aient été massacrés dans la rue, que les gens aient cherché leurs proches, que les gens aient combattu. On nous montre très très rapidement cette histoire d'autogestion, mais tout est là dans ce film. Donc il faut aimer le grand spectacle pour aller voir May 18, ou 18 mai. Mais voilà, c'est un film de Kim Jin-hoon qui est un film historique qu'on peut vous recommander. On aurait pu, je vous parlais donc de Peppermint Candy aussi, qui repart sur plusieurs années de la dictature et qui parle aussi de Gwangju. Il y a eu des rapports Suga hein, du groupe BTS, c'est pas vraiment un rapport, on va dire. C'est un hip-hop monsieur. BTS, groupe extrêmement connu, hein, qui ont fait aussi, qui a fait aussi une chanson sur ce soulèvement du 18 mai. Voilà, il y a quand même aujourd'hui une jeune génération qui tente de saisir de cette histoire et de cette répression, parce qu'il y a encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont jugés pour avoir participé à ces actes ou qui tentent d'être jugés. Monsieur Sean, dont je vous parlais tout à l'heure, lui s'en est très très bien tiré. C'est pas pour rien qu'il y a un film comme 26 mai qui imagine une équipe qui irait s'en prendre, j'avais pas fini mon explication tout à l'heure, à ce général, qui aujourd'hui vit tranquillement quand même. Il a été gracié, il vit tranquillement. Il a été à la tête d'une dictature et de répression sanglante dans tout le pays, un massacre à Gwangju, et il vit tranquillement. Il est attendu quand il va à Gwangju, parce que là, il a été attaqué pour diffamation, donc il a dû se rendre à Gwangju. Il a été accueilli par des cris de meurtrier, va-t'en, casse-toi. Il a 89 ans, un truc comme ça, hein. Il est tout vieux, mais il a quand même pu faire ses mémoires, les écrire et vivre dessus.
Voilà, c'est...
Voilà, donc un soulèvement.
Il y a 40 ans.
Il y a 40 ans, dont il faut s'intéresser, parce que il y a aussi à la fois la répression, mais aussi ce qui s'est passé sur place, et il y a quand même aussi une belle histoire derrière.
Alors, on reparle très brièvement du franc CFA, puisque la France a adopté hier un projet de loi mettant officiellement fin à l'existence du franc CFA à l'Afrique, le franc qui est en Afrique de l'Ouest, là. Donc, la monnaie issue de la colonisation. Donc, c'est la fin, la mort pour ce franc CFA. Alors, ça avait été créé le 25 décembre 1945, et donc on pourrait dire qu'il est quasi mort hier, le 20 mai 2020. Puisque le gouvernement français a adopté ce projet qui met fin à l'ancien franc des colonies françaises d'Afrique. Ça veut dire ça, le CFA, colonies françaises d'Afrique. Voilà. Alors c'est un décret qui avait donné la naissance, et là c'est un projet de loi qui va, enfin c'est une loi qui va le détruire, l'arrêter. Voilà, alors c'est conforme finalement à l'annonce surprise hein, du 21 décembre dernier, c'était à Abidjan, où voilà, la France avait annoncé que le franc CFA s'arrêtait. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest va pouvoir garder tout son argent, puisque jusqu'à maintenant elle est obligée de déposer la moitié de ses réserves auprès de la Banque de France. Pas mal hein, quand même, hein. C'était un vrai truc de colonisateur qu'on n'avait pas enlevé, c'est voilà. Alors il faudra donc attendre quand même que ce projet soit adopté par l'Assemblée nationale, même si le projet de loi a été décidé hier. Après, ce franc CFA devrait être peut-être remplacé par une monnaie locale pour toute cette région, qui s'appellerait peut-être l'éco, en tout cas c'est ce qui a été acté. Officiellement, donc la place de la France se transforme pour devenir un garant financier, c'est ce qui est écrit dans le rendu du Conseil des ministres d'hier. Garant financier quand même, on lâche pas tout. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est aussi simple que ça, la fin du franc CFA définitive? Non, bien sûr que non. Alors certes, ça reste un symbole, c'est un tournant dans l'histoire de l'ensemble des pays anciennement colonisés par la France. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. La France, enfin tous les représentants de la France vont quitter toutes les instances où les prises de décision qui concernaient cette monnaie et la France était encore présente. Donc ça, tous les Français vont se barrer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est vrai que en Afrique il y avait pas mal de militants. Alors je parle de l'Afrique, mais que de cette région-là, hein, l'Afrique de l'Ouest, dite l'Afrique de l'Ouest. Ça fait un moment qu'il y avait des économistes, des politiques, une partie de la population qui en avait marre de la présence un petit peu trop forte de l'ancien colonisateur. Donc il y a eu des pressions mises sur les dirigeants pour essayer de changer la donne. Alors on a été surpris en décembre dernier quand ça a été annoncé, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est pas gagné non plus, car il y a pas mal de dissensions au sein des différents États, différents pays africains. Et puis il y a le fait que le 21 décembre, quand Emmanuel Macron l'a annoncé, il l'a annoncé avec Alassane Ouattara. C'était à Abidjan. On avait l'impression qu'ils marchaient main dans la main. Ça sentait quand même très mauvais la France-Afrique. On sent qu'il y a une entourloupe derrière. Et l'entourloupe, c'est bien sûr que la France va rester garante de pas mal de choses. Alors il y a aussi la partie anglophone de cette région, parce que dans cette région, il n'y a pas que la France qui est colonisée, et donc il y a une partie anglophone qui demande depuis très longtemps, elle aussi, que tout s'arrête, et notamment que la nouvelle monnaie, contrairement à ce que la France veut, ne soit pas arrimée à l'euro. Et pour l'instant, c'est ce que la France a mis dedans. Bien évidemment, il fallait pas trop en demander non plus à Macron et à ses amis capitalistes. Parce que c'est une question économique et de rentrée d'argent dont il est question. Alors bien évidemment, la raison principale, la racine, le symbole, le nom, tout ça, et donc les liens avec la France directe comme ça, vont disparaître, mais les liens indirects vont rester. On espère que la population mettra la pression sur les différents dirigeants africains concernés, afin que les dirigeants africains aillent plus loin que la proposition de l'ancien colonisateur. Même si on n'a pas beaucoup d'espoir, on a quand même un peu d'espoir, puisque en Afrique, dans cette région-là, ça a quand même pas mal bougé. Il y a pas mal de critiques, hein, sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe. Voilà. Donc on espère que ça va aller plus loin que ce que la France a annoncé hier, et qu'il y aura une vraie coupure définitive. Voilà.
C'est à moi ?
Oui.
Alors, on va parler un petit peu de petite histoire de capitaliste. J'hésite, par quoi vais-je commencer ? Allez, on va commencer par ça. On a une petite liste que j'ai trouvée sur un site qui s'appelle businessinsider.fr qui nous parle des prêts garantis pour l'État, qui a fait une petite liste. Alors je me suis dit que j'allais reprendre leur petite liste, hein, c'était pas mal fait. C'est pour donner une idée. Alors je vous rappelle que ça serait bien, renseignez-vous dans votre entreprise, parce que si ça se trouve, votre entreprise aussi, elle a un PGE. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est surtout des petites entreprises qui, pour l'instant, font des demandes, et beaucoup dans l'hôtellerie-restauration. Hein, ça permet d'avoir un prêt, il est garanti par l'État, c'est-à-dire qu'à un moment tu peux pas payer, l'État va, à l'auteur de 70 ou 90% du montant, rembourser la banque. C'est un bon plan pour la banque, hein, quand
oui,
même.
Oui, elle prend pas trop de risques.
En général, c'est ce qu'elle fait, la banque, hein, quand même.
Oui, mais alors, du coup, elle aurait peut-être pas prêté si il n'y avait pas eu le...
Tout à fait. Alors, on sait qu'il y a déjà des gens qui n'arrivent pas à les avoir. C'est le cas de Conforama. C'est un groupe qui va pas bien.
Qui allait pas bien depuis très longtemps.
Et pour l'instant, pour ce qu'on en sait, c'est que les banques, elles veulent pas participer à un nouveau prêt. Donc, pour l'instant, le groupe n'arrive pas à obtenir ce PGE. Alors, on avait parlé effectivement d'Air France, hein, qui bénéficie de son... près de 4 milliards garantis par l'État français, mais on a aussi Renault pour 5 milliards garantis. Alors évidemment, on se dit que si toi qui es restaurateur ou restauratrice, tu ne peux pas te faire ton prêt, l'État ne va pas intervenir, hein, autrement que rembourser le contrat, quoi. Finalement, on peut penser peut-être que quand c'est Air France ou Renault, il y aura d'autres négociations.
Oui, ça, ils ne laisseront pas tomber Air France
ou Renault. Mais en tout cas aussi, la différence, c'est que là, c'est l'État qui pousse un peu aussi sur certains dossiers, comme Air France. C'est-à-dire que toi avec ton restaurant, ma pauvre, écoute, l'État il va pas dire à ton banquier, allez s'il te plaît, vas-y, aide-la, nous on y croit, hein, à la restauratrice, hein. Non, tu vas devoir te débrouiller seul, alors que c'est pas le cas, hein, d'une compagnie comme Air France. Pour la Fnac Darty, ça a été les premiers à obtenir ce plan garanti par l'État pour un montant de 500 millions, tout de même. Alors qu'on sait qu'en ce moment, la FNAC, en termes de gestion de ses salariés et de comment tout ça se passe, c'est quand même moyen. Donc ça serait bien quand même que tout cet argent soit associé à un certain nombre de critères, mais a priori, ce n'est pas le cas. Groupe de transport maritime CMA-CGM a obtenu 1,5 milliard. Quand même. Castorama Brico Dépôt a obtenu 600 millions. Le propriétaire de Noroto, Movivia, 280 millions d'euros. Je trouve cette liste quand même, ça fait de l'euro. Hein. Europcar, ça a été un des premiers aussi qu'on a appris. Alors là, c'est intéressant parce que c'est le combo, si vous voulez. C'est 220 millions garantis par l'État français et 67 millions garantis par l'État espagnol. Il y en a qui vont bouffer à tous les râteliers. Donc il y a un certain nombre d'entreprises hein, comme ça qui effectivement sont connues. Il y a Showroom Privé, par exemple, 35 millions garantis par l'État. Et donc on en est pour l'instant à, je pense qu'on était à la moitié, mais non, on en est pour l'instant un tiers donc de prêts garantis par l'État sur les 300 millions. Ça va y aller hein, quand même, je vous le dis, parce que le problème de tous ces prêts, c'est qu'il va bien falloir les rembourser. Il faut, c'est dans un an. Qu'il va falloir y aller pour les plus petites entreprises ou les PME ou les TPE et on a proposé aussi à toutes les entreprises d'autres aides hein, avec la BPI qui participe aussi à d'autres prêts garantis, donc ce qui fait qu'à un moment ce qui peut devenir inquiétant c'est de voir toutes ces entreprises cumuler les emprunts parce que tout ça bah, il va bien falloir que ça se rembourse et ça commence à inquiéter certains économistes qui voient là quand même quelque chose dans peu ruineux peut-être, et puis qui pourrait avoir quelques conséquences d'ici quelques années. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'apercevra qu'au bout d'un ou deux ans ou trois ans, les entreprises n'ont pas réussi à avoir suffisamment de trésorerie pour rembourser tout cet argent. Voilà. Alors, on a d'autres gens hein, qui réagissent aussi et qui profitent aussi de la situation. Parce qu'il faut bien dire que Renault, qui a quand même prévu un plan de licenciement depuis un petit bout de temps, là, le petit prêt garanti, il arrive bien, hein, je veux dire, il ne faut pas se mentir. Tout ça, ça tombe bien. Donc, il y en a qui en profitent. C'est le cas de Olivier Bertrand, qui est à la tête du groupe Bertrand. Ça ne va pas vous étonner, peut-être, plus ça.
C'est alors, quoi, le groupe Bertrand ?
Hippopotamus, Lion de Bruxelles, Burger King, tout ça, Quick, tout ça. Donc, gros groupe a eu une bien bonne idée pour faire redémarrer la consommation dans la restauration et surtout alléger...
la facture.
Ouais, enfin permettre, disons, de récupérer plus de sous pour les restaurateurs et les restauratrices, c'est un retour à la TVA à 5,5. Hein, je vous rappelle que il y a une TVA à 10 et à 20, mais que quand vous achetez votre pomme, elle est à 5,5. Quand vous achetez de l'alcool, par contre, c'est à 20, et qu'il y a des taux qui sont pas applicables sur la vente. Et donc l'idée, c'est effectivement de faire baisser cette TVA que les restaurateurs ou les cafetiers vont récupérer quand ils vous vendent hein, des produits, puisque normalement, je vous rappelle que la TVA, si jamais il n'y a pas trop d'évasion et d'arrangements fiscaux, elle est censée être reversée à l'État. Tu ne fais que la collecter, toi qui tiens ton petit café, hein, tu sais ça. Donc l'idée, c'est de faire baisser les TVA, revenir à un 5,5 pour que finalement il y ait moins de TVA collectée, qu'il y ait moins à rendre à l'État. Vous voyez, puisque c'est une chose qui s'équilibre avec vos achats, hein, donc cette dépense de TVA qu'on fait tous et toutes quand on achète quelque chose. Et donc l'idée, ça serait de retrouver un équilibre plus performant pour la restauration. On attendait, je vous rappelle que derrière ces histoires de TVA, il y avait eu à la base des grandes discussions, puisque l'État négociait pour que, ok, on baisse les TVA, mais parallèlement, il fallait recruter. Bon.
Bon, là, c'est plus question.
Ce n'est plus question. Et puis, alors, il y avait d'autres bonnes histoires qu'on a retrouvées dans toute la fraise, la presse de la région, il faut le dire. C'est un restaurateur qui s'appelle Pierre Pavie qui a décidé de soutenir Vesna qui travaille pour lui. C'est une belle histoire pour une fois puisque Vesna, elle est née en 2002 en Italie de parents roms qui eux sont nés en Serbie et en Macédoine. Ces roms n'ont pas de nationalité et aujourd'hui elle est en France. Elle n'a pas la nationalité italienne, elle n'a aucune autre nationalité et il fait tout pour qu'elle puisse obtenir la nationalité française afin de lui permettre de rester en France, puisque c'est ce qu'elle veut faire. Donc je trouve ça plutôt, voilà, c'était une belle histoire. Il en faut un petit peu dans notre monde un peu dur pour dire que, bah oui, il y a quand même encore des gens qui font un peu des choses. Voilà, c'est qu'une personne, mais c'est toujours ça. On a aussi McDonald's qui est dans l'actualité, puisque c'est une coalition de syndicats au niveau international qui ont saisi l'OCDE pour s'en prendre à McDonald's. Alors c'est une affaire internationale. C'est le PCN néerlandais qui va devoir déterminer d'ici 3 mois s'il y a une procédure de médiation entre cette coalition et la multinationale qui pourra être mise en œuvre. Il ne s'agit que d'une négociation, il n'y a rien de contraignant dans toute cette saisie, mais ça permet de faire parler et de surtout faire savoir que McDonald's, dans sa multinationale, continue à laisser faire des pratiques jugées violentes. Et on est bien d'accord, puisque c'est du harcèlement, de la discrimination, de la violence sexuelle, ouais, des agressions alors, sexuelles.
Du coup, aller devant l'OCDE, ça, c'est pas la justice, quoi.
Non, mais c'est un travail de syndicaliste qui n'a pas emmené devant la justice. La problématique de la justice, c'est que pour faire attaquer McDonald's, on va avoir des justices internationales. Et donc, ça va être compliqué de faire appliquer les mêmes choses. Il y a des conventions collectives différentes selon les pays, des pratiques syndicales différentes. Donc, l'idée, là, c'est de trouver un moyen de faire parler et de faire pression sur McDonald's. Ça a déjà marché sur d'autres entreprises. Donc là, parce que là, il y a quand même des témoignages qui ont été rassemblés, qui sont énormes.
C'est intrinsèque au groupe qui favorise ce genre de pratiques, en fait.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc, les syndicats ont retrouvé ça en Australie, au Brésil, en Chili, en Colombie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, et évidemment aussi en France. Donc l'idée là, c'est de réveiller un peu tout le monde. Alors la défense de McDo, c'est quoi? C'est de dire, ah, oh là là, nous c'est des franchisés, ouais, on n'y est pour rien. Donc c'est là aussi, c'est compliqué d'aller en justice. Mmh. L'idée là, c'est de faire, d'aller à la tête de la multinationale pour que ça se déverse sur la tête de ces sales patrons qui pratiquent violence sexuelle, discrimination, racisme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà.
C'est tout ?
Non, j'en ai encore, mais t'avais peut-être envie de
poser. Non, vas-y.
Allez,
vas-y.
Allez, moi, d'accord. Ça se passe en Allemagne, c'est un restaurateur, chef étoilé au Michelin. Alors, je vais essayer de dire son nom, mais c'est là que je me sens ridicule. Ça s'appelle Imschöpfchen, c'est à Düsseldorf en tout cas.
Ah oui, le nom est en allemand, tu veux dire.
Bah, oui, c'est en Allemagne.
Il n'a pas fait allemand première langue.
Donc le monsieur semblait très très content d'annoncer sur Facebook la réouverture de son restaurant. Et il a écrit donc, nous rouvrons vendredi, mais uniquement notre bistrot, les Chinois sont indésirables.
Les Chinois sont indésirables.
Donc évidemment, on ressort
c'est
là.
C'est sympathique ce racisme là d'un coup. Là.
Et comme il a bien fait de mettre ça sur Facebook, évidemment, il y a eu une vague déferlante, un tsunami de réponses pour ce monsieur, ce chef étoilé donc, pour rappeler que ça commençait à bien faire le racisme sur les Asiatiques et les Chinois en particulier en ce moment, la xénophobie marre, donc ils en ont pris plein la gueule, mais c'est surtout que le Michelin a tout de suite réagi en disant que c'était pas dans ses valeurs ce genre de propos et que c'était globalement un peu inacceptable, c'est pas écrit comme ça, ça fait un peu quand même ça, et puis surtout il paraît que maintenant on trouve plus du tout ce restaurant dedans, je vous redirai pas le nom. Vous pourrez pas les vérifier du coup sur les pages Michelin internet, voilà, ça a été barré. Les racistes, on n'en veut pas. Et puis une petite affaire aussi liée sur le coronavirus, sur l'épidémie, c'est que le secteur agroalimentaire a dû s'adapter, comme la grande distribution, pour un certain nombre de produits. On a vu qu'il y avait des produits basiques comme la farine qui pouvaient être très rapidement, ou la levure en rade. Hein, ça manquait dans les rayons. Et puis, il a fallu s'adapter.
Pas pour les professionnels, mais pour les particuliers.
Pour les particuliers, tout à fait. Mais dans le secteur agroalimentaire, on a aussi du plat tout cuisiné, des tas de petites choses aussi, des biscuits, des saucisses et tout un tas d'huiles et de machins qu'il a fallu quand même fournir. Puisque les. Quand même, il faut le dire, la grande distribution a largement profité des achats impulsifs du mois de mars. Puis après.
Avec les pâtes et le
pain. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'achat panique. Et puis ensuite, a profité. Soit sur les drives, soit sur en ligne, d'une nouvelle sorte de consommation avec des achats qui se sont un peu multipliés aussi parce que du coup il fallait manger à la maison, parce que aussi les gens avaient envie de nourrir les enfants qui ouvraient trop la bouche en hurlant, donc il fallait mettre des biscuits dedans. Enfin, tout un tas de raisons qui ont fait que le drive a explosé, les petits commerces, les commerces de proximité, donc plutôt le supermarché ou l'épicerie maintenant qui appartiennent à ces groupes, ces multinationales, ont plutôt bien vécu la crise. Et à côté, le secteur agroalimentaire a dû donc fournir un certain nombre de produits. Et donc on a appris, c'est Foodwatch qui se bat depuis mi-avril sur cette question, c'est qu'il y a quoi dans nos produits maintenant, puisqu'il a fallu se battre pour savoir que des produits avaient changé le contenu de leurs ingrédients sans que ça apparaisse sur l'étiquette.
Alors, c'est légal ou c'est illégal ?
Alors, en fait, c'est que la DGCCRF, hein, le machin qu'on appelle la répression des fraudes et puis tout ça, la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation et de la Répression des Fraudes, je vais y arriver, a expliqué qu'en fait, au vu de la situation exceptionnelle due à l'épidémie, il était accepté que n'ayant pas le temps de se fournir correctement et n'ayant pas le temps de changer les emballages, les industriels pouvaient changer les produits sans le faire savoir sur le paquet.
Du coup, ils en ont sûrement bien profité.
Donc, face à la pression et grâce à Foodwatch, à cette association, qui fait un vrai boulot sur l'alimentaire, je trouve, on a une liste maintenant d'un certain nombre de produits qui ont vu leur paquet. Enfin, leurs emballages non modifiés, mais le contenu être largement modifié. Parfois, c'est quand même des trucs qui viennent de provenance. Alors, on vous a certifié que le produit venait de France. Bon, en fait, le produit ne vient plus de France, mais d'Espagne. Ouais. Voilà, c'est un argument de vente qui peut faire que le consommateur ou la consommatrice choisit un produit. Il faut savoir que même dans les produits bio, il y a eu des modifications sans qu'on soit au courant. Non, mais dans le bio, l'industriel, c'est un vrai problème. Hein. Il faut quand même, une fois pour toutes, casser ce phénomène et on ne sait pas comment s'y prendre, bien évidemment. Mais voilà, et par exemple, le Carrefour bio 4 quarts pur beurre bio que j'ai là dans la liste, ben, il y a eu des changements dedans. Donc, on retrouve pas mal de choses chez Picard, chez Leclerc, chez Carrefour, chez Casino, chez Auchan, chez voilà, un certain nombre de grandes de distributeurs avec leur marque de distributeurs, mais aussi sur d'autres enseignes. Et ça, c'est quand même un peu crado, je trouve, qu'on ne soit pas au courant.
Oui, surtout qu'ils auraient pu changer les étiquettes, coller une petite étiquette pour avec la nouvelle, enfin voilà, se débrouiller. Et surtout que derrière, on sent qu'ils en ont profité, qu'ils sont allés plus loin que la problématique pour trouver un ingrédient.
Ouais, mais par exemple, toi, je sais qu'il est très sensible à ce que tu manges en termes d'œufs, puisque tu manges des œufs, tout le monde comme ça le saura. Tu n'es pas vegan, donc. Il y a un certain nombre de produits où ils s'étaient nommés avec des biscuits, beurre, machin, et puis œufs élevés en plein air. Bon, en fait, les œufs, ils n'étaient plus en plein air. Donc, si jamais toi, tu veux de l'œuf bio, parce que tu penses que la poupoule,
elle doit moins souffrir, ouais.
Elle doit un peu moins souffrir, tu t'es fait avoir. Et c'est tout un tas de produits comme ça. Donc, cette transformation, moi, je la trouve franchement dégueulasse, mais elle s'est faite effectivement dans un cadre précis. La question, c'est combien de temps ça va durer avant que les industriels se fassent taper sur les doigts. Je me pose la question.
Bon, bah, un petit moment. Alors, on continue dans le problème du coronavirus et du monde industriel. Et on va parler des sociétés multinationales et des gros investisseurs. Alors, vous savez que ces gros capitalistes-là ont tendance à menacer assez facilement les États, les peuples, les services publics, l'accès à l'eau, enfin, toutes ces choses-là. Et comment ils le font? Ils ont plein de méthodes. Il y en a une qui est bien connue, qui s'appelle les tribunaux d'arbitrage. Ainsi, on a pu voir apparaître depuis 20 ou 30 ans, dans de nombreux traités de commerce, notamment les traités de libre-échange, l'apparition de ces tribunaux. Ça dit quoi, ces tribunaux? Eh bien, les grandes sociétés peuvent avoir recours à ces juridictions spéciales pour investisseurs qui vont régler les différends entre les investisseurs et les États, c'est-à-dire la population quelque part. En anglais, ça s'appelle ISDS, ces tribunaux spéciaux. Voilà. Donc voilà. Et c'est, grosso modo, ils attaquent tout ce qui entrave le commerce et réduisent les bénéfices. Alors ça s'est produit en Europe, hein, il y a eu des choses un petit peu médiatisées. Des projets devant ces fameux tribunaux privés ont été intentés contre, par exemple, la renationalisation de certains services de santé, l'amélioration de critères environnementaux, l'arrêt de construction d'une mine d'or qui allait empoisonner les populations alentours. Et ben, au nom de la réduction des gains pour l'entreprise, ils sont allés devant ces tribunaux. Et en fait, ils gagnent tout le temps. Hein, parce que c'est des tribunaux privés qu'ils ont mis en place, eux. Alors, on a cette fameuse ces attaques aussi contre les États qui mettent en œuvre des politiques contre la consommation de cigarettes, avec les pour des raisons d'enjeux de santé publique. Là aussi, les industriels du tabac ont déjà déposé pas mal de plaintes, et certains pays ont été obligés de payer devant ces tribunaux internationaux. Donc c'est pas ces tribunaux d'arbitrage, c'est pas un truc anodin comme ça, et ils se servent comme ça pour attaquer tout ce qui les embête, tout ce qui est protection des salariés, le droit syndical, parce que ça peut aussi faire baisser leurs bénéfices, disent-ils, l'égalité salariale, les règles de protection de l'environnement, enfin toutes ces choses-là. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de critique. Et là, l'épidémie du Covid arrive. Et elle est en phase de plutôt de régression en Europe, et des cabinets juridiques spécialisés dans ces fameux conflits entre investisseurs et États, étudie actuellement d'éventuelles plaintes contre des mesures qui les ont embêtés, c'est-à-dire tout ce qu'il y a eu, la fermeture des commerces, le moratoire sur les loyers, faire que s'il y a un vaccin, il soit accessible à des prix corrects à tout le monde. Toutes ces mesures prises au nom de la santé publique, mais qui ont quelque part ou qui vont impacter le bénéfice de ces entreprises. Donc les États qui ont choisi, grosso modo, de sauver des vies et de ralentir l'épidémie en ralentissant l'économie, on a bien conscience, ont un risque de se retrouver devant ces fameux tribunaux et devoir de payer des millions d'euros de dommages et intérêts au profit de ces multinationales qui s'estiment lésées. Alors, en fait, c'est ce que craignent deux ONG qui sont à l'origine du papier dont je vous fais part. C'est Corporate Europe Observatory et Transnational Institute, deux organisations qui ont scruté ces dernières semaines les communications des grands cabinets d'avocats. Vous savez, ces avocats horribles qui défendent les multinationales contre la santé des gens, contre les peuples en général, pour faire très large. On se rappelle, dans le passé, hein, il y a eu d'autres actions, tout à l'heure j'en parlais, mais j'en ai d'autres. Hein. Il y a Veolia, par exemple, qui a attaqué la Lituanie, et notamment la ville de Vilnius, parce qu'ils avaient mis fin au contrat de Veolia sur le chauffage urbain. Voilà, ils ont demandé 120 millions d'euros de dommages et intérêts. Il y a le groupe suédois Vattenfall, qui a demandé 4 milliards d'euros à l'Allemagne, pour la sortie du nucléaire, parce qu'il y avait des centrales nucléaires, voilà. Donc là, on n'a pas les résultats pour ce qu'ils ont demandé à l'Allemagne. Le gouvernement allemand leur a déjà donné de la thune, ce qui est inadmissible, mais voilà. Donc, d'après ces deux ONG, les cabinets d'avocats sont particulièrement actifs en ce moment, et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils lancent des appels d'offres, ils exhortent grosso modo les grandes entreprises à réfléchir à des moyens de contestation, parce que c'est eux qui vont les porter, et ils sont payés pour ça. Donc ils veulent faire marcher leur business contre la santé des populations. Et donc on a, les deux ONG ont trouvé, par exemple, un cabinet italien qui s'appelle ArbLit, qui a publié un article complet sur les mesures d'urgence contre le Covid-19 qui pourraient donner lieu à des procédures sur les investissements, c'est-à-dire à des poursuites devant ces fameux tribunaux. Et donc, ces deux ONG ont regardé un peu tout ce qui se passe comme ça de partout. Les thèmes qui reviennent, c'est effectivement l'aspect économique sur l'obligation de fermer des magasins. Sur les loyers, puisqu'il y a des villes, notamment pas des pays entiers, mais des villes qu'on dit le mois d'avril, les pauvres payent pas leur loyer. Ben, les multinationales qui peuvent posséder ces habitats qu'ils louent, ils leur ont dit, il y a peut-être moyen de récupérer de l'argent en poursuivant les États, donc là les villes, plutôt la partie locale. Et puis il y a le sujet sensible des médicaments. Puisque si jamais des traitements sont efficaces ou un vaccin, les États ont dit que pas mal d'États ont dit qu'il faudra que ce soit accessible à la population, c'est-à-dire pas cher. Et on a l'habitude, hein, c'est ce qui se passe, hein, on a l'Inde notamment qui avait fait ça, et puis d'autres pays qui fabriquaient des génériques de médicaments vendus ultra chers, mais pour pouvoir permettre soit à leur population, donc le cas de l'Inde, mais aussi l'Afrique, de se soigner. Hein, ça a été le cas sur le virus du sida, par exemple, hein, les antirétroviraux. Si l'Inde n'avait pas décidé de ne pas respecter les brevets, on aurait eu encore plus de morts, ce qui est déjà beaucoup, les morts du sida en Afrique. Mais voilà. Donc, et ils ont cette inquiétude-là, et les deux ONG ont noté qu'il y avait des communications autour de tout ça. Alors là, c'est plutôt du prédictif, du préventif. Attention, ce qui va se passer pour la suite. Donc là, on est vraiment dans un truc incroyable. Et alors, la dernière attaque, elle est encore plus bizarre. En étudiant ces cabinets d'avocats, qui ont conseillé à leurs clients de faire attention et de réfléchir peut-être à poursuivre les gouvernements si jamais, une fois que la crise sera finie, il y a de l'agitation sociale. Parce qu'on sait qu'il y a des pays où ça s'est pas bien passé le confinement, la France en est un exemple, par exemple, avec des menteurs à la tête de l'État, des gens qui nous disent ce qu'il faut faire et puis pas faire, alors que c'est n'importe quoi, c'est pas logique, et après ils changent d'avis, ils mentent, enfin voilà, on a eu tout. La France est particulière, parce que ça a été flagrant, le mensonge généralisé des politiques, mais il y a d'autres pays où ça s'est passé comme ça. Tous les pays sont pas la Nouvelle-Zélande, quoi, avec des dirigeants un peu compétents, hein, et à peu près honnêtes, quoi. Et donc, ils ont dit, attention, si jamais il y a des réactions derrière, des luttes sociales, de l'agitation sociale, comme ils disent, vous pourrez aussi demander. Voilà. Donc bref, ils jouent sur les deux tableaux. S'il y a trop de mesures sociales, ils vont demander des dédommagements. Et s'il n'y a pas assez de mesures sociales et que le pays explose avec des luttes sociales, eh ben ils demanderont aussi des dédommagements. Ça, c'est le capitalisme, c'est beau. Voilà. Alors on sait qu'il y a des pays qui essayent de sortir de ces traités de merde où il y a ces tribunaux spéciaux pour les capitalistes. Ça avance pas beaucoup. L'Allemagne essaye de le faire parce qu'ils ont ce problème avec Vattenfall, entre autres. On espère que... Mais pas la France, par exemple. La France, Emmanuel Macron et son gouvernement, ils ont signé tous les traités de libre-échange dans lesquels ça apparaît dedans. Voilà. Il y a un vrai problème. Les capitalistes sont quand même... des voleurs au départ, mais là, ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à voler, à continuer de voler, même si ça tue les populations, même si ça met en danger la vie humaine, même si ça détruit la nature. Et ces tribunaux servent à ça.
Mais tout à l'heure, quand je parlais des prêts garantis par l'État, ça me fait marrer quand même. Ces entreprises, alors que ce soit la petite entreprise hein, qui est toujours en train de râler de devoir rendre sa TVA, on rappelle que plus tu payes de la TVA, plus tu fais du chiffre, hein.
Oui, t'as eu un gros chiffre d'affaires, t'as rentré des impôts, l'impôt, le pire impôt, l'impôt indirect, le principal en France, tu l'as rentré au nom de l'État. Donc si t'en as rentré beaucoup, c'est que t'as beaucoup vendu.
C'est que t'as beaucoup travaillé, peut-être trop hein, d'ailleurs. Mais c'est marrant, aujourd'hui on a quand même, c'est beau le socialisme. Non mais c'est vrai, il y a tout l'État là qui se met quand même en quatre pour sauver quand même cette économie.
La socialisation des dettes, la privatisation des bénéfices et la socialisation des dettes.
Et puis c'est ces gens après qui sont des libéraux ou carrément agressifs hein, avec le principe même de l'État et qui aujourd'hui vont solliciter des aides, trouvent que ça serait bien quand même que l'État il intervienne pour sauver les gens. C'est marrant que finalement le libéral sait trouver la voie de l'État quand cette voie est nécessaire et puis aller chercher dans le panier tout ce dont le libéral a besoin pour survivre, alors qu'à côté de ça, il y a trop d'impôts, il y a trop de taxes, on veut faire plus de pognon, on veut faire plus de bénéfices et mettre ce bénéfice dans nos poches. C'est ces mêmes entreprises qui ont du mal quand on leur dit qu'il ne va pas falloir donner de dividendes et qui en même temps vont chercher le pognon de l'État et qui ne sont pas contents. Voilà. Je trouve c'est beau cet État socialiste dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quand je dis socialiste, ce n'est pas le Parti Socialiste, c'est bien le socialisme, le vrai. Je trouve ça magnifique quand même, quand même, l'entre-soi permet aussi un peu plus de choses, je pense, entre certains dirigeants d'entreprise et certains dirigeants politiques pour permettre que, finalement, on utilise bien les sous de l'État quand ça arrange les petits capitalistes, non ? Enfin, ouais, moi, je le vois comme ça en ce moment. Ça. Et puis, quand je dis petit, c'est effectivement, ça peut être votre patron, votre patronne, qui râle toujours à payer des impôts, qui râle à vous donner une prime, qui trouve qu'elle paye trop de cotisations à l'URSSAF, et tout ça, et qui, en ce moment, tente de récupérer du pognon de partout, et puis, surtout, de ne pas le rendre, quoi.
Et bien c'est la fin de ce Kenyu Info, deuxième Kenyu Info déconfiné dans cette période un peu bizarroïde. Et bien voilà, on va vous laisser en compagnie des bandes continues de la plus rebelle des radios et on reviendra normalement très bientôt, c'est-à-dire sûrement la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Bye, bye.